Excuse-moi, l'émission va bientôt commencer. Je vois que tu es en train de peindre autour du studio radio. Est-ce que tu peux m'expliquer en quelques mots ce qui se passe?
En fait, c'est pour juste pour rafraîchir un peu les murs. Il y avait quelques taches de noir sur les murs, donc on refait une couche de peinture blanche.
Alors, le blanc, ça a été imposé ou alors c'est un choix?
Le blanc, il a été imposé, non. En fait, le mur était déjà blanc de base, donc on a préféré reprendre le blanc.
Et si toi, t'avais pu choisir, t'aurais pris quelle couleur?
Franchement, le blanc, ça donne bien.
C'est quoi, c'est lumineux, c'est...
Ouais, c'est lumineux. Surtout qu'on a des vitrines qui donnent de la lumière de dehors. Avec le blanc, le couloir est plus éclairé.
Moi, j'ai tendance à dire que quand on peint, on entre un peu dans une sorte de méditation. Est-ce que c'est ton cas, là? Je te vois peindre, est-ce que tu... Ce geste répétitif, est-ce que ça aide un peu à faire un peu d'introspection?
Franchement, je pense que oui. Je pense qu'on est dans un. On se met dans notre bulle et on commence à peindre et on pense pas, on pense pas à autre chose que la peinture, quoi.
Quelque part, ça fait du bien.
Ça peut, ouais, ça nous fait du bien.
Je peux te demander comment tu t'appelles?
Sofiane.
Merci Sofiane. Est-ce que tu peux dire Radio Maritime? C'est parti.
Radio Maritime, c'est parti.
Merci.
Radio Maritime, c'est le jeudi, de 11h à midi.
C'est Radio Panique.
Et c'est reparti pour une nouvelle année avec Radio Maritime, comme en 2014, comme en 2015, comme en 2016, comme en 2017, comme en 2018, comme en 2019. On va provoquer les rencontres, favoriser le vivre ensemble, vous faire découvrir Bruxelles, ses quartiers autrement. Et cette année, on commence avec un collectif d'écrits, les Encres d'Ailes. Et on a trois invités pour nous en parler. Et puis on a une nouvelle voisine qui nous rend visite à Radio Maritime, c'est Isabelle. Tout le monde va se présenter. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Alors Kaitana, toi tu es déjà venue dans l'émission, bonjour.
Oui, bonjour. Oui, je suis venue pour dans le cadre d'un autre collectif qui s'appelle La Compagnie des Scribes. Et on était venus l'année passée et cette année je reviens avec un deuxième collectif, Les Encres d'Aide.
Toi, c'est ton truc, les collectifs d'écrivains.
C'est assez bien mon truc, oui, depuis un certain temps déjà.
C'est beau. Et à côté de toi, il y a qui?
Moi, c'est Fatia. Donc, c'est la première fois que je viens à Radio Maritime.
Bienvenue.
Merci. Et j'ai participé à un premier parcours du collectif des Encres d'Ailes, et donc qui a donné lieu à la première compilation Émotion. Mmh. Et cette année, je participe au deuxième parcours. On va en dire plus tout à l'heure. Et cette année, je participe en tant qu'écrivante et co-animatrice avec Kaitana, ce qui est une très belle expérience.
Et puis, il y a Naël.
Bonjour.
Bonjour Naël.
Et moi, je suis participante aussi. C'est mon premier parcours des Encres d'Ailes. Donc, j'ai découvert l'écriture. Et voilà, c'est ma première expérience et ma deuxième émission radio.
Oula! Bien. Et puis je vous le disais, il y a Isabelle, une voisine qui voulait voir un petit peu comment ça se passait à Radio Maritime. Bonjour Isabelle.
Salut Thibault.
Et toi, tu as déjà participé à Radio Maritime et par téléphone?
Ouais, c'est ça. Parce que je suis régulièrement pas là. Donc je me dédouble et tout, je passe des coups de fil. Et c'était bien, c'était dans le cadre d'un festival qui s'appelle Ramène ta culotte, qu'on a monté avec plein de femmes différentes, qui avaient plein de projets géniaux. À l'automne 2019, et en plus d'être voisine de Radio Maritime, d'être là aujourd'hui, j'aime aussi beaucoup la radio, donc je suis contente de voir un peu comment ça se passe dedans, c'est cool, la vie avance.
Et bien bienvenue à toutes les quatre pour cette première émission Radio Maritime de 2020, on est ensemble jusqu'à midi, voilà. Maintenant que les présentations sont faites, c'est vous qui devez faire l'émission, alors on commence par des questions ou on commence par de la musique?
Des questions, allez, on est chaud.
Allez, c'est parti, des questions.
Bon, alors les filles.
Isabelle, elle est prête là.
Non, en vrai, non.
Au taquet.
J'ai juste une question importante. Vas-y, je ne sais pas si vous avez eu la chance de lire Laine Noire, donc Black Milk en anglais.
Non.
Non. Ok, c'est un livre écrit par une femme turque qui s'appelle Elif Shafak et qui parle, et c'est ma question en fait aussi pour vous, et qui parle de manière magnifique des liens entre être une femme et être écrivaine en fait, tu vois, et de comment c'est compliqué, tu vois. Et en fait, dans son bouquin, elle donne un chapitre, c'est pour comme une espèce de recherche féministe sur les différentes femmes écrivaines. Et le chapitre d'après, c'est genre les différentes voix intérieures qu'elle a dans son cœur qui parlent et qui se disputent, tu vois. Et du coup, donc la partie un peu égoïste, la partie plutôt ambitieuse, la partie maternelle, etc. Donc la question que je voulais vous poser, c'est genre comment on fait pour... Enfin, est-ce que chez vous aussi, c'est la bagarre entre quand vous devez écrire et quand vous êtes femme ? Est-ce que au contraire, ça vous équilibre ? Enfin, genre, c'est quoi le point de chute entre les deux ?
Qui veut commencer ?
Oui, je pense en effet, il y a une histoire de bagarre, en tout cas chez moi personnellement. Parce que des fois, personnellement, je suis tentée par tout ce qui est romantique, doux, etc. Et donc, c'est vrai qu'il y a une voix du cœur qui s'exprime trop dans mes écrits, mais il y a des moments où le côté rationnel prend le dessus. Et puis, je suis aussi très influencée parce que j'entends à gauche et à droite des discours de femmes, des vécus de femmes, des expériences. Faut dire que j'ai aussi un sens d'empathie qui fait que les femmes viennent vers moi, racontent. Et il y a un moment où ces voix de femmes aussi se bousculent dans mon esprit. Et je pars d'une voix de cœur ou de quelque chose de très doux, de très romantique. Et des fois, je termine sur des choses qui sont très fortes, qui bousculent en fait. Et donc, c'est vrai qu'il y a des tiraillements. En tout cas, à chaque fois que j'écris un texte, je sens ces tiraillements. Et des fois, enfin, c'est le texte ou le personnage qui va prendre le dessus et m'entraîner vers l'une ou l'autre voie.
Gaëtana ou Naël ?
Oui, moi aussi. Ben, moi, c'est ma première, donc c'est la première fois que je fais ce parcours d'écriture. Donc je découvre l'écriture et voilà, c'est vrai que comme explique cet auteur, je ne sais pas qui.
Élie Chafa.
Voilà. Donc voilà, c'est tout à fait vrai parce que bon, moi comme je débute, donc j'ai dû chercher déjà qu'est-ce qui serait bien de prendre comme sujet. Ben, des fois dans ma vie, ou bien des fois je me dis non, pas dans ma vie, hors vie familiale. Et bon, ça se bousculait, ça chamboulait. Et c'est vrai que pour trouver quelque chose, ben, c'est vrai qu'on se prend un peu, bon, on essaye de prendre de nos expériences. Personnellement, parce que moi, je ne connaissais pas du tout l'écriture, donc je me suis basée sur mon expérience de vie. Donc voilà, je suis partie plus vers cette écriture-là que, voilà, comme je découvre, donc j'essaye d'apprendre autre chose que parler de moi et de ce qui m'entoure. Voilà.
Gaëtana.
Oui, alors moi j'ai fait plusieurs parcours d'écriture déjà dans le cadre d'autres collectifs, donc je commence à avoir une plume assez, enfin qui s'exerce, et donc je commence à trouver ma propre voix, mon propre style. Mais pour moi, c'est pas tellement des tiraillements intérieurs en tant que femme qui se posent. Pour moi, les tiraillements sont plutôt vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a écrit et quel thème on choisit et avec qui on partage ça. Et du coup, les collectifs d'écrit, je trouvais que c'était une dynamique très intéressante parce que d'abord, c'est très horizontal. Donc, on n'a pas... En tout cas, on évite au maximum, on réduit au maximum les problèmes de pouvoir qui peuvent se poser, surtout dans les groupes où il y a hommes et femmes. Et ici, les Encres d'Ailes, c'est un collectif qui est né au départ comme un collectif de femmes uniquement. Il est d'ailleurs né à la Maison des Femmes de Scarbeck, en partenariat avec Scripta Linéa. Mais voilà, ça, c'était le point de départ. Et je me suis rendu compte que, du coup, la discussion, donc les thèmes qu'on pouvait aborder, il y avait une certaine liberté qu'on n'a pas nécessairement dans un groupe où il y a des hommes. Donc, on parle de choses qui nous travaillent beaucoup en tant que femmes. En tout cas, moi, personnellement, ce n'est pas que je me dise je suis plus douce, mais voilà. Hein. Moi, j'ai un univers qui est le mien et j'essaie d'y aller franchement. Mais je me rends compte qu'il y a des thématiques qui... Voilà, c'est important de les aborder. Et c'est comme ça que j'ai pu sentir qu'il y a quelque chose à accrocher et qu'on peut montrer, on peut oser montrer à l'extérieur. Et pour moi, c'est ça le questionnement, en fait. Voilà.
C'est vrai qu'il y a un questionnement intéressant et profond lié à qu'est-ce qu'on veut montrer de soi et qu'est-ce qu'on veut garder pour soi. Et on abordait cette question de l'intime et du dévoilement, elle se pose, cette question se pose tout le temps, à chaque fois qu'on veut écrire un texte, parce qu'il y a toujours une partie de soi qui va surgir, qu'on le veuille ou non. Voilà, ça tourne autour de nous, c'est nous qui activons la plume, et forcément il y a une part de soi qui va être dans nos textes. Mais après, il y a aussi des textes qui décrivent directement nos expériences, et on en parle, et on a parlé dans d'autres occasions, et c'est vrai que chacune a sa stratégie, mais la question se pose à un moment donné, un tiraillement, est-ce que j'assume de montrer telle part de moi, ou alors c'est pas cette partie, et si j'assume de la montrer, comment je vais la montrer, comment l'autre va recevoir, comment il va voir cette partie de moi. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux, en tout cas personnellement, de tiraillement, et voilà. Et c'est chouette aussi.
Est-ce que l'anonymat vous a traversé l'esprit? Est-ce que vous avez eu envie à un moment donné d'écrire des choses en vous disant je ne veux pas qu'on me reconnaisse moi, je veux... Ou pas du tout.
L'anonymat en tant que tel, non. Ouais. Mais des fois, par exemple, moi, je crée un personnage.
Ouais.
Et derrière ce personnage, je m'accorde beaucoup de liberté. C'est vrai que les gens qui me connaissent peuvent deviner qu'il y a des croisements entre le personnage et ma vie. Mais heureusement, tout le monde ne me connaît pas. Donc voilà, je prends ma liberté et c'est ma stratégie. Mais après, je me rappelle, la première écriture, c'était un peu très proche de ma vie. Et aussi, toutes ces histoires de femmes, personnellement, dès que j'écris, ces histoires de femmes prennent une place, que je le veuille ou non, dans mes écrits. Mais après, j'ai commencé à oser me mettre dans la peau d'autres personnages qui ne sont pas forcément des femmes. Et là, je suis sortie aussi de moi pour voir l'extérieur, pour imaginer ce que, par exemple, pour la première fois, j'ai écrit en prenant en me mettant dans la peau d'un homme. Donc je me suis placée, qu'est-ce qu'il imagine cet homme, qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il est en train de magouiller dans le couple, etc. J'ai trouvé ça super intéressant. C'est extraordinaire, l'écriture, en fait, l'expérience de l'écriture nous fait découvrir des dimensions de nous-mêmes, peut-être dont on n'avait pas conscience auparavant. C'est surtout ça, en tout cas, pour moi.
Comment dirais-je, le fait d'écrire et de donner une part de soi quand on écrit, de devoir rentrer dans soi comme ça et de devoir le poser sur le papier. Et comment vous l'envisagez? Est-ce que c'est du don de soi? Est-ce que c'est un sacrifice de soi? Est-ce que c'est quelque chose dont on a besoin de sortir, enfin qu'on a besoin de jeter? Enfin, c'est ça en fait que j'arrive pas à comprendre. C'est ce passage entre je suis bien dans moi-même ou je suis dans moi-même et moi-même, tac. Et en fait, je vais m'étendre en fait sur une feuille.
Mais en fait, c'est-à-dire qu'on est toujours dans soi-même, hein, donc, et on peut être en conflit avec soi-même, on peut être plein de problèmes, et utiliser l'écriture comme une forme de thérapie, ça c'est une possibilité. Moi personnellement, qui suis aussi plus dans la fiction, et je me cache derrière mes personnages, et en plus je brouille un peu les pistes parce que j'ai choisi un peu les côtés un peu fantastiques et tout ça. Mais je suis convaincue que toutes les histoires qu'on écrit, de tous les écrivains, partent de quelque chose de vécu. Donc que ce soit un ressenti, que ce soit une expérience, mais ça, je veux dire, c'est très difficile. Enfin, ça me paraît assez compliqué que ça vienne de l'extérieur. Après, on est influencé aussi par d'autres. Donc ça, c'est d'une part. Et d'autre part, sur la question du don de soi, moi, je pense que c'est un mélange de tout. Parce que quand on écrit, on a envie de communiquer. On n'écrit pas que pour soi. Enfin, on peut. Mais quand on s'inscrit dans ce genre d'initiative, c'est qu'on on trouve intéressant de publier ce qu'on écrit, de pouvoir lire des extraits, etc. Donc, on communique, donc quelque part, on se donne, on se livre, et ça, c'est pas évident. Et ça arrive, par exemple, dans les lectures publiques, j'en ai fait l'expérience pour la première fois, c'est qu'on peut pleurer d'émotion, parce que même si c'est de la fiction, nous on sait ce qu'on a écrit, moi je sais pourquoi j'ai écrit ça, les autres pas nécessairement, et c'est pas nécessaire, mais moi je sais, c'est ça qui me trouble, et je connais d'autres personnes qui étaient dans le même cas, qui sont très troublées parce qu'elles-mêmes ont écrit, parce que ça revient en fait.
Mais c'est dans une lecture publique, donc quelque part il y a la réaction en face, gens qui vous lisent, vous ne les voyez pas, là les gens qui vous reçoivent, vous les voyez.
Exactement, donc il y a toutes ces dimensions-là en plus qui entrent en perspective et qui est très troublante, mais en même temps c'est très beau parce que c'est extrêmement honnête. Là, pour le coup, on est dans une honnêteté et une sorte de nudité que j'essayais d'éviter en écrivant, avec plein de stratégies de camouflage. Et en fait, le vrai apparaît toujours à un moment ou l'autre.
Monsieur Patrick, bonjour.
Bonjour à vous tous. Bonjour. Et toutes bonjour. Surtout. Bonjour.
Je voulais vous féliciter pour votre entrée discrète.
Et à l'heure. J'étais là dans le quart d'heure académique.
Tout à fait.
C'est-à-dire une émission qui dure une heure, c'est bien.
Oui, vous êtes entré vers 11h10 et on ne vous a pas entendu. Les auditeurs de Radio Panique ne savaient pas que vous étiez là, monsieur Patrick.
Non, maintenant, c'est réglé. Hein. Là, ils peuvent vous passer à côté. Ils savent que je suis là.
Est-ce qu'il vous arrive de vous mettre à nu, vous, monsieur Patrick?
Non, pas vraiment. Pas vraiment.
Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, parmi les personnes ici dans le studio, Isabelle, Naël, Kaïdana, peut-être vous l'avez déjà rencontré,
oui.
Monsieur Patrick.
Oui, moi j'ai déjà rencontré.
Fatia non plus, vous ne l'avez pas encore rencontré. Monsieur Patrick a une chronique dans notre émission, une chronique hebdomadaire. Je l'ai prévenu trop tard que l'émission reprenait aujourd'hui, donc il n'a pas de chronique.
Oups.
Voilà.
C'est sur quoi
ce sera une première de rentrée sans chronique.
Voilà.
C'est ça l'originalité de la première.
Alors Isabelle demandait c'est quoi votre chronique? C'est une chronique thérapeutique et musicale, c'est-à-dire liée à une chanson, à un état d'esprit. C'est un petit peu notre psychanalyste ici, monsieur Patrick.
Wow. Oui, c'est beaucoup dire. Hein. Donc en gros, je prends un thème ou deux, j'essaye de les relier, ça prend 3 minutes, et j'illustre avec une petite chanson qui alterne entre Alain Souchon et... comment il s'appelle le chanteur belge là qui est décédé,
Rapsat.
Voilà, Rapsat. Donc on a deux possibilités.
Ouais. Voilà. Mais quelque part quelque chose qui vous lie tous ici autour de cette table, c'est que vous écrivez. Vous, Monsieur Patrick, vous écrivez le mercredi soir avant l'émission Radio Maritime du jeudi matin. Ça. Et puis vous écrivez. Est-ce qu'il y a un aspect thérapeutique à l'écriture pour les encres d'aile ou pour Monsieur Patrick de Naël?
Oui.
Oui,
moi, j'ai vécu, ça aide en tout cas à se vider un peu et à voir un peu, poser le problème autrement et se remettre en question aussi, parce que aussi le thème, c'est le changement et le sujet, il est vaste. Donc, ça va dans tous les sens, le changement. Et là, ça tombait vraiment bien parce que c'était un moment où il y avait du changement dans ma vie, interne, hein, même pas externe, c'est plus avec moi-même. Et c'était dur au début parce que je me lance et je suis spontanée. Donc, en fait, je ne me suis même pas rendu compte qu'après Anonymat ou après, c'est quand là, maintenant, je lis mes textes et je me dis... Ah ouais, c'est vrai. En fait, j'y étais un peu... C'est maintenant que je m'en rends compte. Quand j'ai vu mes textes, j'ai dit... Ah ouais, il a bien écrit mon nom en dessous. Et bon, c'est pas grave, j'assume totalement. Mais voilà, donc c'est... Voilà, en fait... Moi, comme je suis une personne spontanée, donc je ne réfléchis pas avant de faire les choses. Donc, je fais la chose, je la donne. Et puis, c'est après, quand je lis, je dis « Ah, j'aurais pas dû peut-être mettre ça, j'aurais dû mettre autre chose. » Mais bon, maintenant, ce n'est pas grave, il n'y a pas de souci. Et au final, oui, ça aide beaucoup parce que, voilà, dans mon texte aussi, ça m'a aidé à voir les choses autrement dans ma vie, comment résoudre certains problèmes avec des personnes. Et ça, oui, c'est un effet thérapeutique quand même, je trouve.
Oui.
Ouais.
Vous le ressentez aussi, Kaïdana ou Fatia?
Oui, pour moi, comme j'ai dit tantôt, ça permet d'explorer certaines dimensions de soi, peut-être qu'on n'a pas osé ou dont on n'avait pas conscience tout simplement. Et après, des fois, ça nous pousse à regarder dans le rétroviseur aussi et de faire le lien entre le... Comme j'ai dit, il y a un personnage, il y a des faits, il y a des événements, il y a un récit. Et parfois, je me retrouve dedans et ça m'oblige à regarder dans le rétroviseur et me dire qu'est-ce qui s'est passé avant, quel regard je peux porter aujourd'hui sur ce qui s'est passé. J'étais surtout, je me pose toujours la question, j'étais dans quel état d'esprit pour avoir réagi de telle sorte à l'époque et je suis dans quel état d'esprit aujourd'hui. Et pour moi, cette réflexion, c'est vraiment c'est se positionner dans sa vie et tracer un peu son chemin et son parcours et se dire voilà où j'en suis aujourd'hui. Et c'est constructif pour moi, en tout cas c'est très constructif,
ouais.
Parce que ça permet d'évacuer certaines choses, c'est vrai. Là, en parlant, je me rends compte que dans l'un de mes textes que je vais lire, c'est une colère, hein. Là, je viens de me rendre compte maintenant, voilà, parce qu'il y a une réflexion, il y a un retour en arrière et après une colère et puis ça part sur la feuille et c'est chouette.
Bien, monsieur Patrick.
Oui, certainement. Freud avait d'ailleurs participé lui-même à la recherche collective, puisqu'il y a un moment de sa vie où il avait commencé à écrire, et travailler sur la question de l'écrit spontané et de voir ce qui pouvait en sortir. Après, ça a dévié vers l'association libre, qui était sa méthode de base. Moi, ce que je trouve intéressant dans l'écriture, et je ne me mets pas du tout dans la peau d'un écrivain, mais c'est que aujourd'hui, en tout cas pour moi, ma vie va de 250 à l'heure, et que quand j'écris, je ne peux pas écrire à 250 à l'heure. Donc je suis obligé de ralentir ma pensée pour que ma main puisse suivre. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'il y a des choses qui réapparaissent, des bonnes idées qui viennent, parce qu'on est obligé de
prendre le temps. Isabelle, je ne t'ai pas posé la question, est-ce que tu écris? Est-ce que tu essayes d'écrire?
En fait, c'est super intéressant de discuter avec vous toutes et tous parce que j'ai vraiment l'impression d'être super égoïste avec mon être. Et je pense que je passe ma vie entière à m'offrir aux gens, à conseiller, soutenir, accompagner. Et j'écris beaucoup, mais en fait, j'écris que pour moi. Tu vois, c'est vraiment un truc que je garde pour moi. Tu vois. Et le truc avec l'écriture, enfin, le truc, c'est déjà la lecture. En fait, je lis compulsivement depuis que je suis petite parce que j'habite dans un quartier d'habitat social très, très pauvre, très, très populaire, mais en face de chez moi, mais vraiment en face, une bibliothèque, en fait. Et bien évidemment, genre juste Valérie, genre la directrice de la bibliothèque, femme géniale, tu vois, qui elle m'a mis dans les mains, mais genre tout ce que je devais avoir comme valise de capital culturel. Et en fait, donc ça fait que, ayant eu la chance de beaucoup lire et donc d'avoir des bibliothécaires avec qui parler pendant des heures et des heures de livres, j'ai formé une pensée littéraire, j'ai formé une pensée en fait sensible en fait, et j'ai très vite écrit, tu vois. Mais c'est tellement quelque chose d'intime et c'est tellement quelque chose de lié dans mon être que j'ai jamais formalisé le fait que je pouvais un jour éventuellement me dire écrivaine, tu vois. Mais en fait, oui, j'écris. Mais genre, c'est comme la radio. C'est des choses que je fais dans ma chambre, quoi.
Mais il n'y a pas de mal. Bah oui. C'est des choix qu'on peut avoir. Et c'est,
Peut-être que le rôle du collectif, c'est ça aussi, c'est de s'entraider à partager ce qu'on a écrit.
C'est ça. Ça stimule, en fait. Ce qui est très chouette dans un collectif d'écrits, comme ceux auxquels on participe, c'est que d'une part, on rencontre des gens qu'on n'aurait pas rencontrés autrement, parce que c'est très ouvert, il n'y a pas de critères de sélection. Et d'autre part, c'est une façon de s'entraider, donc on n'écrit pas ensemble, c'est-à-dire chacune écrit un texte tout à fait individuel, mais il y a après un partage au fur et à mesure que nos textes avancent, il y a un partage et du coup il y a des retours, et ces retours nourrissent le texte de chacune. Et chacune est libre de prendre ou ne pas prendre de ses retours. Donc, il y a beaucoup de liberté, mais en même temps, il y a une recherche de, je veux dire, entre guillemets, excellence, dans le sens où l'idée est vraiment de pouvoir s'améliorer. Voilà. Mais en respectant, évidemment, les styles, les thèmes, enfin, que sais-je, de chacune. Voilà, c'est un peu ça. Mais dans cette idée de se partager vers l'extérieur, puisque le principe, c'est qu'on choisit un thème d'actualité, ensemble, et autour de ce thème, on écrit des textes. Voilà.
Et c'est là l'autre particularité de notre écriture, c'est que d'abord, on écrit, comme on a dit, il y a une part de soi qu'on se résigne à exprimer, à partager avec le public, mais dans le cadre des collectifs d'écrit, il y a aussi un message. On choisit un terme de société, mais derrière nos textes, on doit quand même savoir formuler un message à ce public. Donc, c'est une écriture littéraire, mais engagée quelque part, mais chacune s'y prend à sa manière. Donc, il n'y a pas de choix de style, il n'y a pas d'exigence, etc. Donc, le deuxième aspect sur lequel je voulais revenir, c'est que dans le collectif d'écrit, il y a un climat de confiance très, très important. Donc, il y a confidentialité, bienveillance, confiance. Il y a ce qu'on appelle une charte. Donc, au début, on formule notre charte. Et on s'engage à respecter cette charte. Et dans la charte, il y a toujours un élément central qui est confiance et bienveillance. Ouais. Donc, ça stimule les gens. Ça met en confiance les gens qui ont peur d'écrire, qui ont peur de se dévoiler, etc. Et puis, ça stimule aussi l'écriture via les échanges. Parce que voilà, il y a des gens peut-être qui sont pas prêts à écrire le premier jour, mais il y a des échanges autour de certaines thématiques, etc. Ça libère la parole. Et je pense qu'en libérant la parole, on libère aussi nos plumes après.
Alors, votre nouveau recueil de textes s'appelle Révolution Saturnienne. On va revenir sur ce choix de titre et puis sur le choix du thème. Mais on va écouter votre premier choix musical en lien avec le titre de votre recueil. C'est Saturne de Brassens. Voilà, je ne sais pas qui a choisi. Qui a qui?
Je pense que c'est Marie-Neige qui est une de nos, écrivantes participantes et qui avait effectivement proposé ce titre.
Voilà, donc c'est Brassens en direct au Bobino, parce que c'est un live. Voilà, j'ai pris un live. Monsieur Patrick, ça vous va un live ?
Oui, oui, à la fin, il craque sa chemise, je me rappelle.
Ah oui ? Il saute dans le public. Comme, ouais, c'était son style. Hein. C'était son style. Voilà, vous avez une petite idée des connaissances musicales de Monsieur Patrick, qui nous propose quand même chaque semaine une chronique musicale. Hein. Allez, à tout de suite. C'est Radio Maritime, on est ensemble jusqu'à midi. On est avec le collectif d'auteurs. Décrivante, les encres d'elle.
Il est morne, il est taciturne, il préside aux choses du temps. Il porte un joli nom, Saturne, mais c'est un dieu fort inquiétant. Il porte un joli nom, Saturne, mais c'est un dieu fort inquiétant. En allant son chemin morose pour se désennuyer un peu, il le joue à bousculer les roses, le temps tue le temps comme il peut. Il le joue à bousculer les roses, le temps tue le temps comme il peut. Cette saison, c'est toi, ma belle, qui a fait les frais de son jeu. Toi qui as payé la gabelle, un grain de sel dans tes cheveux. Toi qui as payé la gabelle, un grain de sel dans tes cheveux. C'est pas vilain. Les fleurs d'automne et tous les poètes l'ont dit. Je te regarde et je te donne mon billet qu'ils n'ont pas menti. Je te regarde et je te donne mon billet qu'ils n'ont pas menti. Viens encore. Viens, ma favorite, descendons ensemble au jardin. Viens effeuiller la marguerite de l'été de la Saint-Martin. Viens effeuiller la marguerite de l'été de la Saint-Martin. Je sais par cœur tes grâces, et pour me les faire oublier, il faudra que Saturne en fasse des tours d'horloge de sablier, et la petite pisseuse d'en face peut bien aller se rhabiller.
Kizaku, tu dois changer. Mais quoi ? Je n'en sais rien. Mon sexe ? Bien sûr que non. J'aime ce que je suis. Mon corps ? Bien sûr que non. Je m'accepte, j'aime bien, ça passe. Quoi alors ? Ma famille ? Ben non, impossible. Mes amis ? Bien sûr que non. Mais ça va pas la tête. Mes enfants ? Quelle idée, n'importe quoi. My God ! Kezako ? Yes, tout de suite. Mon mari ? Madre mia ! Je vais réfléchir. Quoi d'autre ? Moi ? Impossible. I'm perfect. Mon environnement ? Là, directement, je me transforme en Pac-Woman. Au final, je reste comme je suis. Caméléon est mon surnom. Je m'adapte à toutes les situations comme Don Corleone. Finalement, mon changement, c'est tous les jours. Ça ne s'arrête jamais. Dios mio.
Bravo.
Pour appuyer sur applaudir.
Oh, on en a si tu veux. Tu veux. Voilà. C'est bien. Merci Naël d'avoir partagé ce texte. Donc un des extraits du recueil Révolution Saturnienne. C'est pas facile à dire.
Petite question. Est-ce
Est-ce que tu avais quelque chose que tu as écrit? Je ne sais plus, je n'ai pas suivi. Non.
Ça, c'est ce que j'ai écrit.
Tu as écrit ça, c'est quelque chose qu'on a écrit. C'est ça. Ouais.
Okay. Et est-ce que je peux.
Vas-y,
savoir,
tu es là pour ça, Isabelle, pose des questions.
Comment t'en es venue là, justement? C'est quoi le parcours, justement?
Fatia nous a amené un texte avec Tu dois changer.
Okay.
Donc, elle nous a amené un super chouette texte. Et voilà, c'était. Et on devait trouver quelque chose qui nous imposait le changement. Mais donc du coup je savais pas quoi et puis d'un coup j'écrivais quelque chose et puis hop il y a une inspiration qui m'est venue puis je l'ai vite prise parce que moi pour avoir une inspiration il faut y aller okay. Donc du coup je l'ai vite prise, je l'ai notée et donc voilà c'est venu comme ça tac 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 tac, j'ai tout noté et j'ai envoyé à Kaitena et à Fatia et au groupe, donc ils avaient bien aimé, donc on a rafistolé quelques petits trucs. Et voilà, c'est venu comme ça. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, on y va. C'était spontané. C'est vraiment ce que je pensais à ce moment-là. Qu'est-ce qui serait bien de changer? Et c'est vraiment des questions qu'on se pose de tous les jours aussi. Donc, et on en discute tout le temps. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, on y va. Allez.
Trop bien.
Donc, voilà.
Comment le thème du changement est arrivé sur la table?
Ben, c'est le principe est toujours de... Donc, quand on commence un parcours de collectif, donc tout le monde sait que le thème d'écriture est un thème de société et donc on commence par un ensemble d'idées que chacune émet, de thématiques. Ça peut être, je sais pas moi, l'environnement, ça peut être le vieillissement, ça peut être plein de choses. Et puis il y avait le changement qui était figuré parmi ceux-là et donc après on a un tour évidemment de sélection qui peut prendre deux sessions, deux rencontres. Et finalement, on s'était accordé sur le thème du changement parce que ça touchait à d'autres sous-thèmes qu'on avait mis en avant. Et puis, c'est vraiment voilà, quelque chose qu'on ressent et qui était aussi discuté. En fait, il y avait deux éléments aussi qui ont, en tout cas pour moi, déclenché l'intérêt pour la question. C'est d'une part, moi, je travaille pour l'association Entrage, qui d'ailleurs est à l'initiative du collectif. Et on travaille sur les questions du vieillissement, de la relation entre les générations, des préjugés liés à l'âge, donc l'âgisme, le jeunisme. Donc, il y avait déjà la question du changement des femmes dans leur corps et comment c'est perçu par la société. Et ça, on en avait beaucoup parlé. Et en tout cas, pour moi, c'était une grande motivation. Et puis, d'autre part, il y avait donc ce changement par rapport à ces injonctions de changement que la société nous impose, aussi bien nous en tant que femmes, mais aussi par rapport à nos façons de vivre, hommes ou femmes, hein, peu importe. Donc, tout ça a fait que, en tout cas, moi, je me trouvais bien dans ce thème. Et visiblement, ça a été le cas pour les autres qui avaient plus ou moins les mêmes motivations, mais en tout cas, dans nos rencontres, on en parlait beaucoup et je crois que ces textes sur « Tu dois changer » sont le fruit, en fait, de discussions qu'on a eues au sein du collectif. Et évidemment, puisque Fatia en était l'initiatrice, ça nous a inspirés, puisque moi aussi, j'écris un sur le changement et Géraldine, qui est l'autre participante, l'a fait aussi. Donc, on s'est un petit peu... Voilà, ça, c'est aussi une des vertus du collectif, c'est qu'on s'inspire les unes des autres pour écrire nos propres textes sur peut-être des choses similaires, mais avec un regard spécifique.
Tout à fait.
Alors, on passe à une deuxième lecture, ça vous dit ou...
Ok.
Ouais, Fatia?
Alors, je vais lire encore une fois « Tu dois changer », mais c'est comme un coup de gueule. Mm-hmm. Le deuxième titre, c'était « Une nana vénère », mais je ne l'ai pas mis.
Vénère avec VNR.
Vénère, oui, c'est sacré. Tu dois changer, mais je suis bien comme ça. Et puis changer quoi? Transitif ou intransitif? Mais t'es qui, toi? T'es qui d'abord pour me dire « tu dois »? Est-ce parce que je te le permets ou parce que tu te crois roi? Tu l'es peut-être ailleurs, mais ici, c'est moi qui fais désormais la loi. Tu m'aimes quand je suis joviale, mais figure-toi que j'incarne aussi le désarroi. Tu prétends me connaître, mais tu as à peine frôlé mes parois. D'ailleurs, tu ne connais rien de mes habits, ni de mes émois. Mais alors, comment changer? Et changer quoi? Soi-disant, tu penses à mon bien-être et à ma joie. Mais tu as beau te montrer bienveillant, ton regard est trop sournois. Et dès que je te tourne le dos, tu affiches ton sourire narquois. En fait, en matière d'hypocrisie, tu as remporté tous les tournois. Et toi, être irréprochable, tu incarnes la perfection, c'est ce que tu crois? Aveuglé par ton ego et impressionné par tes cinq doigts, pourtant j'en ai aussi, j'ai aussi un cœur et un foie. Tu sais quoi? Un jour, on a offert des perles à une gâtinaise. C'est une poule, si tu vois. Mais elle ne savait apprécier que les insectes, et c'est ainsi que je te perçois. Tiens, toi aussi tu dois. Tu dois changer ce qui te sert de courroie,
car la transmission est foireuse et tu empruntes la mauvaise voie. Je te le dis car j'ai pitié de toi. Et puis la parole, c'est aussi mon droit. Finalement, je vais peut-être changer, mais c'est mon choix. Je vais changer de slip et m'offrir un nouveau foulard en soie. Je boirai mon café tout le matin, mais ça s'appellera kahwa. Je dégusterai mes gâteaux aux framboises et j'avalerai plein de bavarois. Et pour finir, j'irai plonger mes grosses fesses dans le Pacifique. Je les bronzerai sur les belles plages du Nicaragua. Je vivrai avec mes tripes, peu importe comment tu le conçois. Sais-tu pourquoi? Sais-tu pourquoi tête de noix? Eh bien parce qu'aujourd'hui, je m'aime plus que qui que ce soit.
C'est génial. Il faut rapper en fait.
C'est presque du slam.
Oui. Bah, j'ai pensé la faire autrement avec un accompagnement, c'est vrai.
Mais il y a fort moyen de le faire avec un accompagnement. On peut discuter facilement.
Si tu as une idée.
J'ai envie d'en faire. On a un petit studio.
Monsieur Patrick,
J'étais en train de me dire que ce serait intéressant de faire une rencontre entre les marinelles et les textes lus.
Tout à fait. Alors nous avons ici au Centre communautaire maritime, nous avons les marinelles. Vous connaissez les marinelles?
Non.
Collectif de femmes qui, elles, chantent.
Ah, chouette.
Voilà.
Qui est un collectif qui est mené par Malika, qui est une des animatrices de l'émission, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Mais oui. Oui, les rencontres peuvent se faire.
Oui, et ce serait une succession ou une alternance de textes et de chants. Ça pourrait être très... Et je pense que même à la limite, on pourrait imaginer quelque chose pour le 7 mars. Hein.
Ah oui,
Mais bien sûr, les auditeurs de Radio Panique sont en train d'assister à la création d'un projet, mais qui va. Moi, j'ai toujours dit que vous devriez être manager, hein, monsieur Patrick. Moi, si je me mets à la chanson, je vous engage. Hein.
Oui, je vais déjà me managerer moi-même.
Bon, on va écouter votre deuxième choix musical, chanson des Métamorphoses. C'est, je sais pas qui a choisi.
Mais c'était moi qui l'avais choisi par le titre notamment, et puis j'étais très heureusement surprise du style de cette chanson qui emprunte, je pense, à des styles un peu moyenâgeux.
Oui.
Et c'est très beau. C'est vraiment très beau.
J'ai découvert ça en préparant l'émission. Je trouve ça aussi très très beau. Et voilà, on se retrouve après ça.
Dans un bois, tu n'auras pas mon cœur comme tu le crois. Fais-toi biche de dans un bois, je me ferai chasseur pour te chasser. Fais-toi biche de dans un bois, chasserai la belle par amitié. Tu te fais chasseur pour me chasser. Je me ferai anguille dans un étang. Je me ferai anguille dans un étang. Tu n'auras pas mon cœur comme tu le crois tant. Fais-toi anguille dans un étang, pêcherai la belle par amitié. Tu te fais pêcheur pour me pêcher. Je me ferai malade dans un lit blanc. Je me ferai malade dans un lit blanc. Tu n'auras pas mon cœur comme tu le crois tant. Fais-toi malade dans un lit blanc. Je me ferai docteur pour te soigner. Fais-toi malade dans un lit blanc, soignerai la belle, ma bien-aimée. Tu te fais docteur pour me soigner. Je me ferai bonne sœur dans un couvent. Je ferai bonne sœur dans un couvent. Tu n'auras pas mon cœur comme tu le crois toi.
Vous écoutez Radio Maritime.
Tu dois changer les règles. Tu dois changer d'attitude. Tu dois changer ta façon de faire, de parler, de bouger, de regarder. Tu dois changer ton regard sur le monde, sortir de ta zone de confort. Change tes habitudes, ne crains plus l'inconnu. Voilà le salut pour une vie réussie et une personnalité épanouie. Ne râle pas devant Facebook ou Google qui changent l'interface chaque année, pour ton confort et ton bien, même si tu n'as rien demandé. Ne peste pas contre l'obsolescence programmée. De portable et d'imprimante, il est bon de changer chaque année. Ne te préoccupe pas du changement climatique. Le monde qui tourne mal, c'est une illusion d'optique. Car tout est pris en main dans un bel élan démocratique pour ta santé, le respect de la nature et celui des citoyens. Tu dois accepter les changements du monde, changer ton mode de pensée, être moderne, technique, robotique, multitâche et t'adapter. Surtout, ne pas te plaindre, ne pas résister. Le monde est ainsi fait. Tu dois t'y mouler en accepter les règles. Mais les règles, qui les fait ? Le législateur, les inventeurs, les physiciens, les entrepreneurs ou les grammairiens, les multinationales, les microbes, les américains, les ours, les fauves, les savants ou les apprentis, les vieux ou les jeunes, les méchants ou les gentils. Tous s'en préoccupent, mais en réalité ce sont les hommes qui imposent leurs règles, à leur avantage et sans partage. Ils laissent peu de place aux réclamations des femmes. Pourtant elles seules, à vrai dire, en produisent vraiment. De règles que l'on tait et que l'on cache, rouges par nature, elles deviennent bleues à la télé. Des règles simples que l'on transforme en inquiétantes tumeurs, en comportements à faire changer à tout prix. Ce sont là des règles inacceptables, madame. Elles sont violentes, inadmissibles et dangereuses. Rouges comme l'enfer, les communistes et les révolutionnaires. Rouges comme la chair, le sang, la colère, la luxure et le danger. Ce sont des règles rouges comme le trait rouge qui dit l'erreur ou le point d'exclamation de la clameur. Rouge comme l'audace, rouge comme l'alarme et son cri d'horreur. Elle devrait être invisible et gêner le moins possible. Et pourtant, l'absence de ces règles est aussi sujet à injonction. Tu dois changer, te teindre les cheveux parce qu'ils deviennent blancs, faire du sport et un régime et manger sain. Car ton corps change, se métamorphose et il faut l'empêcher de devenir vain. Nous ne sommes plus rouges et désirables comme la rose fraîche du printemps. Nous devenons pâles, ridées et flétries, râleuses et grincheuses, sorcières aigries au regard rabougri. Ce sont là vos règles de représentation, messieurs. Et votre règle est que l'audace, la résistance, l'imagination et toutes les marques du temps qui passe doivent changer impérativement. Je dis non.
Merci.
Je découvre le texte de Kate Elmer parce que voilà, tu n'as pas eu l'occasion de le voir.
Il a un peu évolué.
Oui. Il a évolué, oui.
Et alors, Naël, tu découvres et...
Ben, j'aime beaucoup parce que moi, j'avais même pas lu, hein, je l'avais même pas vu le texte. J'étais pas là, je pense, quand tu l'as lu la première fois.
Si, mais il a quand même beaucoup changé.
Ah, d'accord,
en fait.
Ok. Ben,
c'est le principe du recueil, c'est que les textes changent. Hein, c'est
oui, voilà. Ça change jusqu'au moment où on envoie à l'imprimerie. Voilà.
Ouais, non,
c'est
bon,
on nous dit
j'aime
stop,
beaucoup.
C'est terminé.
Ça reflète un peu ce qui se passe dans notre société. Hein.
Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'on. Alors, je ne pense pas que ce soit le cas de tous les textes du recueil, mais on parle beaucoup du changement comme quelque chose qui nous est imposé. Est-ce qu'il y a des textes où vous parlez du changement comme quelque chose qu'on accueille de manière positive, comme le changement... Parce qu'il y a du bien aussi à changer parfois.
Mm-hmm. Oui, tout à fait.
Est-ce que vous avez des textes sur cet angle-là, en tout cas ?
C'est-à-dire que c'est pas une question seulement, comment dire, c'est plus le changement. Par exemple, on a des textes qui parlent un peu des changements, ou qui abordent plutôt la question du changement climatique, du changement politique, des changements, par exemple, par rapport.
Alors attention, il y a une catastrophe dehors là. Vous avez entendu, on est en train de faire des travaux dans le bâtiment, voilà. Donc ça tombe. Hein,
vous... les changements dans la vie, c'est-à-dire que, par exemple, on a des personnes un peu plus âgées dans le groupe. Qui ont aussi écrit sur voilà les changements qu'elles vivent dans leur dans ce qu'elles sont, dans ce qu'elles sont en tant que personnes. Donc, c'est pas tellement... Bon, ici, c'est vrai qu'on a pris le thème de l'injonction. Tu dois changer. Et c'est un peu particulier. Mm-hmm. Mais en général, l'idée n'était pas d'opposer des choses. C'était simplement d'exprimer, voilà, qu'est-ce que nous, on entend et comment on ressent le changement. Donc, je ne peux pas dire qu'il y ait du bon ou du mauvais changement. Je crois qu'il y a un engagement, il y a une réflexion, il y a une observation. Et de manière générale, c'est plutôt vers l'avant. Ces textes-ci sont plutôt une critique au changement qu'on nous impose de manière un peu
en tant que femme. C'est un exercice particulier, en fait. C'est parti de l'idée de « tu dois changer » comme injonction venant de l'extérieur. Mmh. Voilà. Et chacune a répondu avec sa sensibilité, on va dire. Et n'empêche qu'on a fait ça presque à la fin du parcours.
Oui, tout à fait.
Je me rappelle bien, n'empêche qu'au début du parcours, chacune a écrit à sa manière, mais on a décidé de rassembler nos plumes autour de l'injonction de « tu dois changer ». Donc, par exemple, parmi les changements désirés, il y avait mon texte sur l'homme qui voulait changer dans le couple et qui cherchait à changer en gardant sa femme et qu'il mettait des stratégies. Ça n'a pas probablement abouti à ce qu'il souhaitait, mais... c'était de voir dans le couple le besoin de renouveau, le besoin de changement, comment il était perçu par ce personnage. Mais c'est aussi, je pense, il y a une histoire ou l'autre qui m'a un peu guidée dans ce récit. Voilà, comme on a dit, il y a toujours une part de sa mémoire qui va ressurgir, quoi.
Isabelle, tu as une question qui est brûlante.
Oui, ça se voit.
Non, je sais pas, en fait, elle n'est pas si brûlante que ça parce qu'elle est en train d'être formulée dans ma tête, donc je vais devoir la formuler plus vite que prévu. Okay. En fait, moi, quand j'entends le « tu dois changer », ce que je vois déjà, c'est le « tu », du coup, le premier mot, parce que j'ai l'impression j'ai l'impression qu'en fait, par l'écriture, on redevient sujet, en fait. Par l'écriture, on redevient un jeu parlant, écrivant, du coup, écrivante, en plus, la classe, tu vois, et en plus, collectivement, tu vois. J'ai l'impression que le tu nie, en fait, l'humanité de la personne et que l'écriture vient reprendre le droit de l'être. Donc, voilà. Et en fait, cette réflexion-là, cette compréhension que j'ai du thème « tu dois changer » et de vos écrits et donc lectures, m'amène à cette fameuse question sur le parcours de l'écrit une fois que c'est écrit. Parce que moi, quand je vous vois, là, vous, mon cerveau de femme noire, afroféministe, urbaine, qui sort de Sciences Po, ce que je vois, moi, c'est de l'engagement politique, en fait. Hein. Moi, ce que je vois, là, c'est la puissance, c'est la sororité, c'est ça que je vois. Donc, en fait, j'ai besoin de savoir à quel moment ce que vous nous lisez là, ça devient des armes, en fait. Hein. À quel moment ce que vous nous lisez là, ça devient de la puissance, déjà dans vos êtres, mais aussi en tant que groupe et dans la ville dans laquelle on est.
Naël, peut-être ? Je sais pas.
Je te lift.
Quand moi j'ai écrit ce texte, je me suis sentie forte, m'imposant des choses. Et voilà, c'est comme ça, que vous vouliez ou pas. Ces questions, on se les pose tout le temps, mais on n'ose pas les dire. Donc voilà, c'est aussi, je me suis dit, allez, c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose et qu'on, des fois, on cache une part de vérité. Non, ça va, tout va bien, tout se passe bien, c'est nickel. Bon, les questions du couple, on se les pose tout le temps. Les enfants aussi, parce qu'il y a beaucoup... Les âges sont difficiles. Voilà, l'entourage familial et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, c'est des choses qu'on vit tous les jours. Moi, personnellement, c'est comme ça que je le vis. Parce que moi, c'est comme je vous dis, c'est une découverte de l'écriture. C'est ma première expérience. Donc voilà, j'apprends en découvrant déjà mon écriture. Parce que je ne savais même pas quel genre d'écriture j'avais. Donc pour moi, c'était... quand j'ai entendu parcours d'écrit, c'était waouh. Je crois que je vais arrêter parce que ce n'est pas pour moi. Mais au final, non, parce que c'est ouvert à tout le monde et chacun son style, même si mon style est simple. Voilà, chacun respecte le style de l'autre. Et voilà, ce moment-là, quand j'écris, c'est vraiment... il y a plein de choses qui venaient, et puis ma fille qui vient au même moment, et mon fils, et puis je me dis, oh là là, c'est pas possible. C'est pour ça que là, je dis, oh, les enfants, ouais, yes, tout de suite, voilà. Donc voilà, c'est vraiment du spontané, ce moment-là. Et voilà, et quand je l'écris, je me dis, tiens, pourquoi pas... voilà, on l'édite et voilà, il y en a qui vont se retrouver là-dedans, il y en a qui vont peut-être pas se retrouver, donc voilà quoi, et chacun le prend comme il veut.
Fatia, Gaëtana, sur cet aspect politique
oui,
peut-être.
Oui, donc il y a effectivement, donc le collectif part du principe qu'on traite de questions de société, donc déjà il y a une sensibilité par rapport à des choses qui se passent, qu'on observe, qui nous touchent et qu'on va exprimer à travers des textes littéraires. Alors, l'engagement politique, évidemment, il aurait pu rester fermé dans une petite boîte qui s'appelle Livre et s'en rester là. Alors, évidemment, il y a toujours ceux qui vont lire et qui vont se dire « Ah tiens, c'est intéressant hein? », mais il y a aussi l'aspect de la lecture publique. Donc, c'est là où on s'expose le plus. Et alors, chaque collectif est différent. Celui-ci, je trouve qu'il est particulièrement engagé. Et ces textes en particulier sont peut-être les plus engagés de manière assez ouverte. Je veux dire, les autres sont... Voilà, touche à d'autres thèmes mais qui participent du même type d'engagement, mais moins, je dirais, spectaculaire. Celui-ci est plus, voilà, on l'a bien senti, c'est une écriture aussi. Moi, je ne suis pas du tout habituée à écrire comme ça et ça m'a vraiment inspirée. Et je me suis dit, c'est bien parce que ça me permet aussi de sortir des choses. Parce qu'on est toujours dans une urgence, hein, quand on a envie de partager avec d'autres, c'est parce qu'on a une urgence d'exprimer. Et pour moi, le fait que ce sont des thèmes de société et qui sont urgents, eh bien, c'est vraiment le moment de le faire. Et donc, c'est ça qui nous porte. Et je pense que c'est à la lecture publique et à des moments comme ici à la radio ou d'autres événements similaires où on peut vraiment porter une parole. Et voilà, ça a l'impact que ça a. Ça produira son micro-changement. Mais c'est toujours ça, en fait. Et c'est ça qu'on souhaite. Nous, on n'est pas des politiciennes. On n'est pas des gens qui ont un pouvoir de changement en termes de décision. Mais on a un pouvoir de transmission. Et je crois que c'est à ce niveau-là que ça se joue. Et plus on est nombreux et nombreuses, bah, plus il y aura des chances que bah, ça prenne, en tout cas chez certaines personnes, et puis ça fait boule de neige. Donc. Et c'est un peu ce qui s'est passé à un micro-niveau, à nos niveaux de collectif, on n'est que 6, mais au fur et à mesure des échanges, Naël a pu écrire ce qu'elle a écrit, alors qu'au départ, je crois qu'elle se disait « moi, j'arriverai jamais », parce que déjà, il y avait l'idée qu'écrire, ce n'est pas possible pour moi. Et les autres, c'était à peu près la même chose. Donc, et celles qui sont un peu plus aguerries, bah, il n'est pas non plus d'office dit qu'on va pouvoir écrire sur ce thème de manière aussi engagée. Donc voilà, je crois que tout le monde y gagne énormément. Et comme disait Fatia, on est dans le collectif est une première étape pour pouvoir... transmettre en fait. Et je crois que c'est ça la clé, c'est la transmission.
Mais ici, on est engagé, mais à travers l'écrit, à travers nos textes. Et je pense que c'est un moyen aussi pour exprimer des positions claires, que ça soit lié à la politique, lié à l'environnement, lié à la vie en société, aux relations, aux couples, etc. Mais c'est une façon de s'engager et d'exprimer un positionnement clair. Et je pense qu'on est dans le principe de l'éducation permanente qui nous offre cet outil-là en tant que simple citoyenne pour nous exprimer, pour apporter aussi notre parole sur l'espace public, mais d'une autre manière. Et c'est vrai qu'il y a de la puissance dedans. Et ce n'est pas les seuls textes engagés. Par exemple, le texte sur l'environnement, moi, par exemple, et c'est mon avis personnel par rapport à tout ce qui est changement climatique, j'ai eu l'impression à un moment qu'on mettait trop sur les individus. Et du coup, j'ai dû écrire un texte qui dit, voilà, un peu ironique, cela dit, mais moins direct, mais ça se comprend que, voilà, c'est trop regarder le petit détail d'un individu, alors qu'il y a des monstres de l'industrie qui sont en train de pourrir la société. Ouais. C'est ma position personnelle. Et donc, à travers ça, c'est un texte qui raconte une situation, mais qui passe le message. Et donc, je me rappelle qu'à chaque fois qu'on lisait un texte, on posait la question, quel est le message que tu cherches à transmettre et qui est lié à la thématique du changement. Donc, on est consciente, parce que c'est un peu l'idée des collectifs d'écrit, c'est de transmettre un message, c'est de percuter un public via le mot et via nos textes. Ouais. Voilà.
Mais alors juste pour ton avis super personnel sur l'environnement, j'aimerais juste dire que c'est pas du tout un avis personnel et qu'il y a des gens, notamment un type qui s'appelle Michel Foucault, qui est super génial, qui dit qu'il y a un concept qui s'appelle le biopouvoir, qui dit qu'en fait l'État, donc l'État capitaliste, nous culpabilise en fait. L'État capitaliste nous moralise en disant que, ben voilà, et tu vois, un truc qui est super flagrant, c'est tout ce qui est les pubs sur les camions d'ordures. Tu vois, ne jetez pas votre cigarette parce que, ou bien, on va donner aux enfants, quand ils sont à l'école, on va faire de la propagande pour se brosser les dents. Et comme ça, les enfants vont coller dans la salle de bain des trucs en mode ferme le robinet, tu vois. Et en fait, ça, c'est des choses qui, effectivement, qui vont rentrer dans nos êtres, qui vont rentrer dans nos consciences, pour nous faire comprendre que c'est, comme tu dis, c'est l'environnement repose sur nos épaules, là où effectivement, enfin, si on arrêtait le nucléaire, ce serait peut-être déjà plus facile aussi.
Mais il faut quand même changer la façon de vivre. Hein, non, ça, je crois qu'il y a.
C'est juste quand il y a une exagération. Sens, voilà.
C'est juste, enfin, dans ce que je cherche à exprimer, il y a peut-être une surresponsabilisation.
Voilà, c'est ça. Voilà.
On est tous responsables, c'est cette notion-là. Parce que ça génère aussi des gens qui sont anxieux, voilà. Qui ont peur de l'environnement. Ça génère des anxiétés, et ça génère des psychopathologies à force de mettre trop de responsabilités sur les individus. Et c'est ce que j'ai cherché à dénoncer indirectement.
Et l'État ne joue plus son rôle, évidemment, en mettant sur le dos des gens. Ça, je suis d'accord. Mais je pense qu'on doit aussi changer des comportements.
Non, bien sûr.
Qui sont amenés par l'industrie, qui nous bourre de pubs et de machins.
La consommation.
Voilà, c'est tout un truc très complexe.
Ce qui me plaît dans la rencontre avec vous, c'est que justement, en fait, vous, pour moi, votre collectif est une proposition d'organisation collective à rebours de l'individualisme et à rebours d'autres choses, en fait. Voilà, c'est ça qui me plaît. Et du coup, dans ce que vous avez répondu là collectivement, il y a le mot « espace public » qui est écrit dans mon cerveau en lettres majuscules avec un stabilo. Quand est-ce qu'on fait...
Ça évoque quoi,
moi, alors, en fait, pas des questions comme ça. Après, ça me bloque. Il y a trop de mots en même temps qui veulent sortir. Je vais réfléchir. Non, en fait, pour moi, donc comme je le disais hors antenne, comme on dit dans le milieu, du média, la ville est à nous. D'accord. Voilà, c'est facile, c'est facile. Et quand je dis nous, je veux aussi bien dire nous les femmes, nous les citoyens, nous les gens. Tu vois, nous les gens du quotidien, nous les gens qui marchons en feu rouge et qui allons à la boulangerie, tu vois, nous. Et donc, vu que la ville est à nous, faut qu'on y fasse des trucs, tu vois. Et y faire des trucs, ça peut être aller en manif, ça peut être amener nos enfants à l'école, ça peut être se parler, ça peut être s'asseoir sur un banc, tu vois, ça peut être juste prendre la place, tu vois. Ça peut être ouvrir des bâtiments vides parce qu'il y a quand même 6,8 millions de mètres carrés qui sont vacants à Bruxelles.
Hein. Toute une commune, il y a toute une commune. Ça
s'appelle Saint-Vit-Lierbeck, hein. Donc c'est beaucoup trop. Et donc pour moi, comment dirais-je, je fais partie d'une génération, même si j'ai beau sortir justement d'une école de politistes, je suis partie d'une génération qui croit dans les gens, tu vois. Je crois en nous. Et dans le fait qu'en fait, même avec des petites choses, même avec sortir une table ou deux tables dans la rue avec trois chaises, qu'on peut faire société, tu vois. Donc, je pense que, effectivement, le système de lecture publique, le système de disséminer ces textes-là, en fait, dans tous les lieux de Bruxelles qui font de l'éducation permanente, dans tous les lieux de Bruxelles qui ramènent le citoyen, que ce soit des lieux qui soient fermés ou ouverts, comme l'allée du Caille, par exemple, vous serez plus que les bienvenus, en fait. Aussi bien pour vous présenter, pour reprendre ce risque, que pour peut-être en inviter d'autres aussi à faire comme vous, en fait. C'est-à-dire que finalement, comme tu l'as dit tout à l'heure, Caïtana, il y a cette idée que le livre, c'est un objet qui n'est pas forcément accessible, c'est un objet qui est... C'est un objet, en fait. Voilà, c'est déjà un truc, le livre. Alors que Bruxelles est petit, Bruxelles est accessible, donc il y a peut-être moyen de profiter de cette accessibilité pour encore plus se retrouver facilement, tu vois. Et je pense que là, le parcours que vous avez entreprise, quoi, qu'il se dissémine, pour attirer, pour arriver à l'effet boule de neige que tu évoques, en fait.
Et bien justement, on va parler de la suite, puisque c'est le moment agenda, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, les amis. On pourrait continuer des heures, hein, j'ai l'impression.
Ah oui, le thème est inépuisable, donc je me permets de prendre la parole pour dire que notre collectif, qui est en fin de parcours, fera sa lecture publique le samedi 25 janvier à 16h30, donc de 16h30 à 18h au Point Culture Botanique. Donc lecture publique des extraits de Révolution Saturnienne, qui est notre deuxième compilation. L'entrée est gratuite et toute personne qui viendra recevra à la fin de notre présentation un exemplaire du recueil Révolution Saturnienne, où il y a non seulement des textes très engagés, enfin ils sont tous engagés, mais il y a aussi de très très beaux textes plutôt dans une veine davantage littéraire et qui méritent d'être lus pour leur contenu et pour leur forme aussi. Parce que nous sommes aussi un petit laboratoire d'écriture, pas uniquement un lieu où on échange, on essaye aussi de travailler un outil qui est celui de l'écriture et d'expérimenter. Et c'est ça, je pense que ça fait partie aussi de la démarche. Et alors, dernière petite chose, c'est que donc on achève ce parcours d'écriture, mais il y aura probablement un troisième. Donc, vous trouverez si vous êtes intéressé de rejoindre un collectif d'écrit, n'hésitez pas. Vous pouvez soit aller au site web, sur le site de Scriptalinéa, collectif d'écrit au pluriel.org, ou alors sur le site d'entrage, www.entrage au pluriel.be.
J'ai appris que vous vous ouvriez aux hommes.
Ah, ouais. Notre collectif s'ouvre aux hommes aussi. Monsieur Après, Patrick. Il va falloir en rediscuter. Je ne suis pas sûre qu'on aurait produit tout ça en présence masculine, mais bon, peut-être.
C'est ça toute la question. Non, moi je terminerai en disant que je suis conforté et soulagé. Soulagé parce que...
Radio Maritime reprend.
Non, parce que la société voudrait nous faire croire que nous vivons entourés de décérébrés, qui ne pensent qu'à leur GSM, à leur télévision et à une réalité virtuelle. Conforté dans le sens que aujourd'hui j'ai la preuve par quatre que ce n'est pas le cas et que ce que je croyais intimement se voit renforcé par la présence de ces quatre personnes. Voilà.
C'est beau, monsieur Patrick. Isabelle, une actualité pour l'allée du Caille, pour laquelle tu travailles ?
Mais en fait, l'allée du Caille, ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps, donc c'est très très simple. Il faut venir en face de Tour et Taxi, avenue du Port 53, tous les mercredis, tous les vendredis, tous les samedis après-midi, quand les enfants sortent de l'école et on passe un bon moment. Et les autres jours de la semaine, qui ne sont pas ces jours-là, on peut aussi venir. Il y a toujours des choses qui s'y passent, mais sauf que c'est souvent organisé par d'autres associations. Voilà.
Très bien, voilà, on aurait pu continuer, on avait envie de vous lire encore plein de textes, mais c'est déjà fini. Ciao, bye bye, à la semaine prochaine.
Au revoir.
Salut.
La semaine prochaine, c'est Vinyl Party, donc vous pouvez revenir avec vos vinyles, passer de la musique et parler de vous. Voilà. Merci. Dis-moi ce que tu écoutes, je te dirai qui tu es. Ciao.
Salut.